question. Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute, France Culture.
Dans la grande table ce midi, Olivia Gesbert vous a proposé un très long entretien avec Jean-Luc Godard à quelques jours de la diffusion, vendredi soir, de son dernier film en date, Le Livre d'images sur Arte. Dans cette dispute exceptionnelle, nous proposons un retour sur l'œuvre godardienne, sur le fond et sur la forme. Je suis en belle compagnie puisqu'entouré de Muriel Joudet, Lucille Caumont, Antoine Guillot, Henri Leblanc et Philippe Azoury.
J'aime bien là, ce qu'on appelait en latin, je ne sais pas le mot, disputatio, tout ça. J'aime bien la dispute, mais qui n'est pas la guerre. J'aime bien la dispute.
Merci Jean-Luc. Voilà un premier point d'accord entre Jean-Luc Godard et nous. C'est bien la raison d'être de ce titre d'émission. Alors reste quand même une émission à mener avec cette difficulté de s'attaquer à une œuvre qui a 59 ans d'existence, à bout de souffle, sortie sur les écrans le 16 mars 60. Jean-Luc Godard avait 29 ans. Il avait en fait déjà tourné plusieurs courts-métrages depuis 1954, donc 65 ans d'activité de cinéaste. Plus de 40 longs métrages, n'oublions pas non plus son activité comme critique, essentiellement au cahier du cinéma à partir de 1952. Nous avons donc réfléchi à plusieurs axes à vous proposer ce soir, des portes d'entrée dans le cinéma de Jean-Luc Godard. Mais tout d'abord, on a, pour se présenter les uns et les autres, parce qu'on ne se connaît pas très bien, on va proposer un premier tour de table pour que vous nous disiez chacune et chacun quel est votre film préféré de Jean-Luc Godard et pourquoi. Tout cela de façon extrêmement concise, la concision étant la qualité première de Muriel Joudet.
Ah oui, alors j'ai longtemps réfléchi et j'en ai choisi un.
C'est bien, c'était le but, c'était ça, pour l'idée.
Non, j'ai choisi Vivre sa vie. Alors parce que quand j'étais adolescente, c'était l'idée que je me faisais de Godard, de la Nouvelle Vague et du cinéma français. Et des années après, voire des décennies et des siècles après, c'est encore l'idée que je me fais de ces trois choses. Et surtout, je pense que c'est l'idée que je me faisais d'un cinéma. En fait, je me suis dit, avec Vivre sa vie, on se rend compte à quel point c'est peut-être très facile de faire un très grand film. C'est-à-dire qu'il suffit de filmer la nuque d'Anna Karina en train de parler, il suffit de filmer Anna Karina en train de parler à Brice Parrain, il suffit de filmer Jean Ferrat en train d'écouter une de ses chansons pour faire un très grand film. Alors ça a l'air très simple, mais en fait c'est très compliqué. Et c'est surtout un des films de Godard qui a pour moi le rapport le plus frontal, le plus immédiat à l'émotion, ce qui peut-être se perd progressivement dans sa filmographie, on verra ça plus tard.
Philippe Azoury.
Moi aussi j'ai beaucoup hésité, enfin, je pense qu'on a tous hésité, évidemment, Vivre sa vie, Alphaville, pourquoi pas Sauf qui peut la vie, Prénom Carmen, peut-être un des plus sensuels, mais si je dois...
Vous devez.
Si je devais
c'est maintenant,
en
c'est d'ailleurs
un seul,
maintenant, Philippe.
Sur une île déserte, ce serait peut-être les deux premiers épisodes des Histoires du cinéma. Peut-être parce qu'ils correspondent le plus à l'idée que je me fais, moi aussi, de Godard. D'un Godard qui organise tout, qui remonte tout, qui voit tout, qui régurgite tout depuis sa table de montage. Un Godard astrophysicien, pataphysicien aussi. Un Godard très, très laborantin.
Antoine Guillot.
Alors, on s'est pas concerté avec Philippe Azoury, mais moi, c'est pareil. Ce sont les Histoires du cinéma. Alors, je prendrai pas les deux premiers. Je prends l'ensemble et le Livre d'images qui en constitue une sorte d'appendice qui prolonge le geste parce que c'est le Godard que moi, j'ai découvert, le Godard contemporain, au moment où à la fois on voyait dans les salles de répertoire les films de la première période, les films des années 60. Et puis, on avait ça qui nous arrivait dessus, qui nous transportait complètement et qui allait au-delà du plaisir cinéphile de se dire on est dans un bain de cinéma. Mais on avait à la fois l'impression de voir un peintre qui avait la palette la plus large du monde parce qu'il pouvait puiser dans toute l'histoire des images et cette idée qu'on pouvait utiliser les outils du cinéma, des outils de montage notamment, pour penser le monde et penser l'histoire. Et ça, c'était fascinant.
Alors Henri Leblanc qui a tout revu hein, pour préparer cette grande table spéciale, vous avez passé des centaines d'heures, on pourrait comparer vos expériences avec Lucille Gaumont qui a mangé beaucoup de Godard depuis une dizaine de jours. Non, votre film préféré Henri?
Alors je pense que c'est comme un peu pour tout, on revient toujours aux origines, moi j'ai découvert Godard à travers Nouvelle Vague à la fin des années 90 et en fait j'étais dans une période où j'essayais de comprendre ce qu'était la Nouvelle Vague, j'avais un peu étudié Truffaut, Chabrol et je me disais bah tiens un film qui s'appelle Nouvelle Vague va peut-être m'éclairer sur le mouvement cinématographique mais en fait pas du du tout. Et du coup, je l'ai revu plusieurs fois et je pense que c'est un peu comme avec d'autres grands maîtres. Ils nous accompagnent dans notre vie. Et en fait, pour moi, Nouvelle Vague est un film important de Godard parce que je pense que c'est un de ses films les plus optimistes. Parce qu'il y a quelque chose de très programmatique, je pense, par rapport à son œuvre, c'est-à-dire dans cette idée de la vague, du ressac, du retour sans cesse entre le passé, le présent, et ce film coupé en deux, avec un rapport au double, qui à mon avis est très très important chez Godard, puisque à mon avis Godard n'est pas tout seul.
Vous dites fin des années 90, Henri, il me semble que c'est 90.
Oui, non, c'est 90, hein. Mais moi,
vous l'avez découvert à ce moment-là.
J'avais 8 ans, donc.
Et peut-être aussi. D'accord.
C'est un peu plus tard.
Non, mais d'accord. C'est le moment où vous l'avez découvert, pardon. Il me semblait
ça
bien.
Peut-être
que le sentimentalisme aussi de Nouvelle Vague vous a touché. Lucille Como?
Moi aussi, c'est beaucoup lié à la découverte de Godard. C'est Masculin-Féminin, que je pense que c'est le premier film de Godard que j'ai vu.
Là,
que j'ai
sorti,
beaucoup revu, bien sûr, en 66. Qui est un film en noir et blanc, une chronique parisienne avec Jean-Pierre Léo d'une part et Chantal Goya en face. Et dans ce contraste, se jouent à la fois des questions de genre et des questions sociales, puisque Jean-Pierre Léo est un ouvrier plus ou moins politisé et Goya est une sorte de chanteuse pour Midinette. Et là-dedans se crée une forme de comique. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et j'aime le Godard qui me fait rire. J'aime moins le Godard qui me fait pas rire.
On y reviendra. En fait, pendant que je vous écoutais, je me suis dit qu'il fallait que je me lance aussi. Moi, c'est tout simplement le mépris. C'est pas très original, mais quand j'étais petit et que je faisais des fiches pour noter les films sur 20, qui avaient 20 critères, c'est le premier film que j'ai vu qui a eu 20 sur 20. Donc, ça reste quand même le mépris que j'ai dû voir plus de 20 fois, en effet, depuis. Mais bon, le dernier film en date de Jean-Luc Godard, il s'intitule Le Livre d'Images. On pourra le découvrir sur Arte vendredi soir. Alors, on va commencer par cela, l'image, la forme. Et déjà là, on aura quand même énormément de matière, d'images qui vont aussi revenir dans nos esprits. Visage peint en bleu de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou, les statues peintes dans Le Mépris, justement, l'importance des couleurs dans les films de Godard, Godard peintre, Godard coloriste. On va écouter un premier extrait, au moment où je parle, encore inédit sur notre antenne et dans le monde, extrait de cet entretien mené par Olivia Gesbert.
Ici, par exemple, c'est une salle de montage. Donc, moi, j'habite dans mon lieu de mixage. C'est comme ça que je travaille. C'est comme un atelier de peintre, si vous voulez. Et là, j'en suis arrivé à un moment où je n'ai plus vraiment de raison de chercher de l'argent pour un autre film, puisque je pense non seulement qu'il ne peut pas se faire, mais qu'il n'a pas à se faire. Il a juste à se penser et à se dessiner comme Delacroix fait un dessin et il ne pense pas qu'il doit en faire un tableau. Alors, le seul ennui, c'est que tant que la vie est là, il faut bien continuer à la nourrir, ce qui est très embêtant.
Vous peignez, vous ?
Maintenant, j'aime bien, des fois, repeindre un tableau qui est une copie, rajouter un peu de bleu et jaune, et comme ça, mais c'est tout. Ou peut-être avec les tablettes, je me disais, tiens, on pourrait faire un film. Mais c'est une idée, on pourrait faire un film ou sur une tablette ou avec tous les trucages numériques. Je peux recolorier à ma façon un film que j'ai fait. Les Chardins qui disaient, la peinture est comme une île dont on s'approche et qu'on n'atteindra jamais.
Bon, ce passage-là, en l'occurrence, il était déjà diffusé ce midi sur France Culture. C'est pas grave, on en a d'autres. Lucille Como?
Oui, Jean-Luc Godard, il parle de la manière dont qu'il a de peindre aujourd'hui, mais il a commencé par ça. Bon, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Il a peint très jeune et c'est peut-être une dimension les plus saillantes dans son cinéma, la dimension picturale, la couleur en particulier. Alors, est-ce que, au-delà de la citation, des paysages, les couleurs des costumes, la manière de colorier aussi les cartons, les écritures dans son cinéma, quelles influences, quelle manière de faire est-ce que vous identifiez, vous, Muriel Joudet?
Alors moi, je pense qu'il y en a énormément. Ce serait très difficile de répertorier toutes les influences. Moi, je vois surtout le cinéma hollywoodien, le Technicolor. Je vois aussi l'influence. J'ai revu quelques Godard et l'influence de Johnny Guitar, de Nicolas Ray est immense dans l'œuvre.
Et présent dans le livre d'images, encore une fois d'ailleurs.
Voilà, dans le livre d'images. même dans JLG par JLG, enfin vraiment dans toute son œuvre. Mmh. Et il y a un souci maniaque de pour cette couleur-là. Il y a aussi un travail sur les couleurs primaires, donc bleu, jaune, rouge, sur les couleurs du drapeau français, hein, bleu, blanc, rouge. Et sur les couleurs primaires, je pense qu'il y a la volonté de travailler des couleurs antinaturelles pour faire en sorte que finalement le cinéma devienne quelque chose de pour montrer que le cinéma est quelque chose de profondément fabriqué, de profondément artificiel. C'est une manière de l'arracher aux couleurs ternes ou aux demi-teintes du naturalisme et du réalisme et de montrer que voilà, il y a un monde qui est sous le contrôle d'un cinéaste et qu'on arrache finalement le cinéma à la nature. Et en revoyant coup sur coup Pierrot le Fou et le Livre d'images, j'ai vu une sorte de cheminement qui partirait finalement de Mondrian, c'est-à-dire des aplats de couleurs, d'une forme de couleur délimitée par des objets, ça va être un vase, un verre, un tableau, un canapé, et puis qui chemine progressivement en passant par le pop art vers le fauvisme, c'est-à-dire une couleur qui vibre pour elle-même, qui n'est plus délimitée par un objet, mais qui n'est là que pour voilà, c'est-à-dire c'est du rouge qui surgit en tant que rouge. Et je pense que l'utilisation de la 3D donc Adieu au langage, y est pour beaucoup dans cette recherche finalement du fauvisme, d'une couleur qui finalement il y a pas de sens à rechercher derrière cette couleur, il n'y a que la couleur pour elle-même, d'où peut-être le Godard peintre, c'est-à-dire arrêter de chercher du sens, arrêter de chercher une signification à tout et juste s'imprégner d'une couleur qui finalement sort de son cadre.
Henri Leblanc, cette question.
Je pense que ce qui est assez fou, c'est de voir aussi la cohérence en fait du système Godard, c'est-à-dire que on a l'impression que là il clôt un cycle qui était commencé par Éloge de l'amour, et comment il retravaille la pellicule, et là souvent des photogrammes entre guillemets qui ne lui appartiennent pas, qu'il emprunte, et qu'il va sursaturer, mettre des sortes de bandes de couleurs. On pense beaucoup à Nicolas de Staël, moi je trouve, dans ce film, qui était lui-même présent par le biais d'un livre dans Adieu au langage déjà. Et en fait le livre d'images est vraiment ponctué de citations de peintures. Il y a du Delacroix, du Caillebotte, du Masaccio, du Giacometti, mais aussi même physiquement des pinceaux en fait qui sont présents et qui sont les siens, parce que quand on va dans son atelier de montage, on voit qu'il a aussi derrière son banc de Betacam, de machine Betacam, une sorte de palette de peintre. Et il dit, et quand on lui demande à quoi ça lui sert, il dit c'est pour m'inspirer avant de préparer mon montage.
Ce qui est compliqué avec Godard, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même plusieurs périodes. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, voilà, les films de Godard sont comme ça. Parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de couleur anti-naturaliste et de la palette de peintre, etc. Mais c'est aussi celui qui fait, notamment dans ses films de la troisième et quatrième partie de carrière, c'est-à-dire une fois qu'il s'est installé au bord du lac Léman, qui filme le mieux la nature en ce moment. Il est très difficile d'obtenir des verres au cinéma. C'est vraiment l'enfer pour tous les chefs opérateurs. Et quand il filme aussi bien Nouvelle Vague que Hélas pour moi, ou ces fleurs et cette nature en 3D qu'il va filmer dans Adieu au langage, il obtient quelque chose. Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail de saturation vidéo pour obtenir ça, mais qui donne un sentiment de nature qu'on a nulle part ailleurs.
Donc, bah, nuages dans Nouvelle Vague.
Voilà, les vagues du lac Léman. Enfin, il y a des éléments naturels qui ont une présence quand même très très directe chez lui.
Faut dire qu'il est quand même aussi dans ces nombreuses périodes, il y a eu ce long passage vidéo qui débouche sur vraiment une adoption du numérique, la 3D on l'a dit. Comment est-ce qu'il a négocié ces évolutions techniques du cinéma depuis le milieu des années 60? Hélas, le grand Jean-Pierre Boviala s'en est allé il y a quelques jours maintenant, cet inventeur génial de différentes caméras, Philippe Azoury. Ces évolutions techniques, Godard les a suivies très très près chaque fois.
Oui, je crois qu'il a vraiment beaucoup beaucoup de goût, même pour tout ce qui est gadget, enfin un nouveau téléphone portable à l'ère de l'amuser, enfin en tout cas ou de le passionner, de l'intéresser, comme outil de peintre justement. On parlait des différentes périodes, aujourd'hui il serait la seule personne à qui on puisse le comparer, ce serait Picasso. C'est-à-dire la peinture et la contestation de la peinture et la révolution de la peinture. Lui, c'est le cinéma et la contestation du cinéma. Mais la contestation du cinéma par son langage, mais par ses techniques. On se souvient il y avait une archive incroyable de cinéma, je crois, sur le tournage de Détective ou de Prénom Carmen, où il est en train de s'engueuler avec Bruno Nuiten.
Et
il
Détective,
lui fait
sur Détective. Dans la chambre d'hôtel.
Dans la chambre d'hôtel, Saint-Lazare, l'hôtel de Saint-Lazare. Et il lui fait la leçon sur qui a inventé les objectifs. Et il a ce reproche depuis toujours, c'est-à-dire de, même, il fait souvent le reproche au très très jeune, jeune cinéaste, de ne pas s'intéresser à la technique, de ne pas posséder de caméra. Lui a toujours voulu posséder une caméra, la plus petite, la plus légère possible. Les dialogues, ça a été publié dans les cahiers du cinéma dans les années 80, c'est repris en volume. Les dialogues justement entre Jean-Pierre Boviala de Hâton à Grenoble et de Godard, lorsqu'il va au milieu des années 70, après la période Ziga-Vertov, après la période maoïste, non pas se retirer mais partir également lui aussi à Grenoble pour travailler en laboratoire, à essayer d'avoir, d'abord ça a été la paluche, puis ensuite un calage vidéo avec du son, avec le marqueur son intégré, des choses qu'aujourd'hui tout le monde utilise, même nous avec nos téléphones portables, il les a expérimentés. Là-dessus, c'est vraiment quelqu'un qui a un attachement à la technique, mais quasiment pour la détourner. Antoine parlait de la dernière période, on a l'impression que les couleurs dégoulinent, enfin, depuis Film Socialisme, enfin, on a l'impression que les bleus et les rouges se superposent, ils les saturent. Bah oui, c'est Monet à Giverny, et en même temps, c'est l'aspect intégré, dégueulasse de nos pixels qui retravaille en sculpteur. Et ça, c'est passionnant.
Écoutons un extrait du livre d'images.
Il est certain que la représentation, plus particulièrement l'acte de représenter, est sans doute de lui, implique presque toujours. Implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation. Il y a un réel contraste entre la violence de l'acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même.
Le cadre. Il faut en parler, hein, du colorisme de Godard peintre au Godard cadreur. Lucille Gaumont, d'ailleurs, petit rappel, hein, c'est un poste de cadreur
moi,
qu'il avait.
Ça n'a pas duré très
j'allais
longtemps.
J'allais dire cradeur, mais c'est pas loin.
C'est peut-être pour ça qu'il est viré.
Je fais un jeu de mots godardien, là.
Exactement.
Cadreur.
Non, cadreur, mais je crois qu'il a été viré parce qu'il a encore volé à la caisse, une sorte d'histoire de caisse.
Mais quand même.
Mais oui, en l'occurrence, il a été cadreur, mais c'était au tout début des années 50 pour la télévision. C'était pas une grande expérience, je pense, dans sa vie.
Mais la façon de cadrer les couples, par contre.
Oui, alors moi, c'est ce qui me frappe. Vous disiez tout à l'heure, Antoine Guillot, qu'il y avait plusieurs périodes, et en même temps, il y a des formes de continuité quand même assez impressionnantes quand on revoit, comme moi, l'un des films de manière rapprochée qui ont 20 ans, 30 ans d'intervalle, notamment sur la question du cadre et de cadrer les couples. Dans les cafés, il y a des scènes de masculin-féminin, j'y reviens parce que c'est vraiment mon obsession, et des scènes de détectives, par exemple, avec Nathalie Baye et Johnny Hallyday, qui sont exactement cadrées de la même manière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas vraiment très maîtrisé, c'est pas droit, parfois on voit pas Johnny Hallyday, parfois on voit pas Nathalie Baye, de la même façon que parfois Jean-Pierre Léo ou Chantal Goya sont en hors-champ. Moi, c'est une dimension que vous avez soulevée, Philippe Azoury, qui m'avait pas marqué, mais que du coup, j'ai beaucoup regardé en revoyant son cinéma.
Non, mais peut-être précisément, on dit toujours c'est le plus grand monteur. On l'a dit aussi de Eisenstein, mais comme Eisenstein, c'est aussi le plus grand cadreur. C'est-à-dire que pour être le plus grand monteur, il faut d'abord avoir été le plus grand cadreur. Il cadre comment, Godard ? Il y a deux manières. Il y a cette frontalité qui a marqué toutes les années 60, vraiment provocatrice, c'est-à-dire le regard caméra, l'interdit absolu. Il le fait. De la même manière qu'il fait des couleurs primaires, il fait de la frontalité primaire. Et il y a cette passion pour la caméra de biais, dans lequel il y a une, deux, trois, comme ça, stades d'information avec des profondeurs de champ incroyables. Il a des fous de ça. C'est un héritage de sa passion pour Orson Welles. Mais à l'intérieur duquel, dans cette frontalité, il y a de la vitesse. Il sait cadrer ça comme personne. On dit que dans le livre d'image, il n'y a pas d'image de lui. Ça, c'est je suis pas certain. Je lance vraiment la question. Je pense qu'il y a.
Il y en a.
Et c'est des images qu'il a pris à Carthage, c'est ça.
Il a pris à Carthage,
en Tunisie, en tout cas.
En Tunisie.
C'est évident, ne serait-ce que par le cadre et ne serait-ce que par les couleurs qu'il utilise à cet endroit-là. C'est fou. Et ces images sont signées. Dans le flux d'images du livre d'images, on voit qu'il y a 3-4 plans qui ont été tournés par Godard lui-même. C'est dur à dire pourquoi il y a autant d'informations, pourquoi à cet endroit-là, on sait, il les cadre en plus comme Pierrot le Fou. Il revient à un cadrage années 60 qui fait pas du tout lorsqu'il est à Rolle, qui faisait pas sur le bateau de Film Socialisme, qui est un des derniers endroits où il a filmé hors la Clément, hors Rolle, Nyon, Lausanne. Et c'est troublant, enfin, cet effet signature, cette volonté de faire entrer de biais autant d'informations comme pour chercher un angle, c'est absolument extraordinaire.
Antoine Guillot.
Il y a d'autant plus des images de lui dans le livre d'images que c'est un film où il retravaille aussi sa propre filmographie et qu'il l'insère à l'intérieur, dans l'ensemble de l'histoire
quand on voit le petit soldat, c'est super émouvant.
Du cinéma. Donc il l'avait fait un peu dans les histoires du cinéma, mais c'est juste, c'était plutôt la filmographie.
C'est beaucoup plus assumé.
Là vraiment, il s'inscrit, dans un geste aussi orgueilleux que juste, parce qu'il est effectivement...
On consacrera une dispute au livre d'images en tant que tel.
Ce qui me frappe aussi dans le cadrage de Godard, et notamment dans celui des années 60, c'est l'œil du graphiste qu'il a. Je ne sais pas si c'est sa formation suisse, grand pays du graphisme, s'il en est, mais il a cette façon d'utiliser la typo et d'utiliser avec ses... Parce que ce n'est pas seulement les aplats de couleurs, ce n'est pas seulement une question de peintre, c'est aussi une image qui est extrêmement forte, ce qui fait qu'il iconise complètement ses personnages. Et alors l'image, évidemment, de Belmondo dans Pierrot le Fou, d'Anna Karina, de ses actrices en général...
Tous les plans du mépris, j'y reviens moi aussi, c'est mon obsession.
Le sont complètement. Ce qui fait que paradoxalement, c'est le Godard le plus récupérable, cette façon de filmer, très utilisée par la publicité notamment. C'est pour ça que c'était facile pour Azanavicius de le plagier dans le film qu'il a fait, et c'est pour ça aussi que des gens comme Azanavicius sont complètement déroutés quand il part vers autre chose et qu'il n'est plus récupérable. Mais c'est vrai qu'il a créé des images qui marquent complètement la pop culture des années 60, tout en les détournant quand on veut bien aller y voir. Mais il y a une façon quand même de rendre un peu cliché certaines images de Godard de cette période-là, c'est assez facile.
Alors Philippe Azoury, vous parlez du nombre d'informations incroyables qu'il y a dans les plans de Godard, c'est une question de forme, mais donc c'est une question de fond aussi qui est revenue à plusieurs reprises dans nos échanges d'idées pour préparer cette émission, la question de la citation chez Jean-Luc Godard.
14 avenue des radiations lumineuses, Institut de sémantique générale. Vous savez où c'est ?
Vous préférez que je passe par les quartiers de la zone nord ou ceux du sud ?
Il y a quelle différence ?
Au nord, il y a de la neige. Et dans le sud, du soleil.
Moi, de toute façon, je voyage au bout de la nuit. Alors ça m'est égal.
C'était ma première nuit à Alphaville. Mais il me semblait déjà qu'une longue suite de siècles l'avait précédée.
C'était Alphaville. Lucile Comeau.
Oui, il parle de sémantique et c'est vrai qu'avant c'est même son dernier film qui est une sorte de recueil. La citation, c'est quand même quelque chose de très important et une figure récurrente chez Godard. On a même l'impression que son cinéma est totalement hypermnésique, c'est-à-dire qu'on récupère tout et comme vous le disiez, Philippe, je crois que c'est vous qui le disiez, il régurgite absolument tout de manière assez primaire, enfin du moins assez littérale. Comment est-ce qu'elle fonctionne pour vous, Muriel Joudet, justement la citation chez Godard?
Je pense que Godard, c'est la citation, c'est-à-dire que tous les films fonctionnent sur ce principe-là de citer d'autres œuvres. C'est presque un processus cognitif au sens où il pense dans les termes des autres, dans les peintures des autres, les livres des autres, toute l'œuvre, toute l'histoire de l'art finalement, il pense à travers elle, et il pense par association, par montage, par collision d'une œuvre avec une autre. Et c'est en fait l'idée très postmoderne, selon moi, que finalement un personnage, un affect, une situation renvoie à une chose qui préexiste déjà dans l'histoire de l'art et que donc il n'y a plus qu'à remonter à cette origine, parce que pour Godard, la réalité, le grand référent, c'est l'histoire de l'art, parce que c'est là que se trouve la plus grande intensité, le plus fort potentiel en réalité. Et ça peut être très intimidant, je pense que c'est une des dimensions qui rend Godard intimidant, c'est que finalement il s'est fait le gardien de cette mémoire-là, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des idées. Et ça peut être, quand on aborde son œuvre, très intimidant. Et finalement, son geste en contient 100 autres, 1000 autres. Et c'est ce qui faisait dire à Gilles Deleuze que c'est une solitude peuplée. C'est-à-dire que voilà, son geste contient à la fois Samuel Fuller, Delacroix, Louis-Ferdinand Céline. Et j'ai retrouvé cette citation de Jean-Luc Godard. « Je suis simplement celui qui met en relation Raymond Chandler et Dostoïevski dans un restaurant, un jour, avec des petits et des grands acteurs, c'est tout. » Donc voilà, mise en relation de citation, pour moi, c'est vraiment une des définitions de Jean-Luc Godard.
Mais du coup, dans cette posture qui est assez désinvolte, au fond, de revendiquer la littéralité de la citation, est-ce que ça induit pas que finalement le cinéma de Godard n'est qu'une forme de collage? Enfin, moi, j'ai l'impression que ça peut être réducteur. Bon, après, c'est une provocation, mais ça peut réduire quelque chose de son cinéma.
Je pense qu'en fait, il s'est créé du neuf avec de l'ancien. C'est l'idée que finalement, quelque chose de nouveau va surgir. Et il n'y a pas du tout l'idée que voilà, c'est en vase clos et qu'on ne peut rien inventer.
Henri Leblanc.
Je pense qu'un des termes importants, là, c'est le mot association, en fait. Mmh. Donc, à mon avis, Godard, il s'inscrit dans une, enfin, c'est qu'un point de vue, hein, je pense qu'il s'inscrit dans une filiation de Picasso, de la nature, nature morte à la chaise cannée 1912, qui est le début du collage au sens plastique, à William Burroughs, avec le cut-up. C'est-à-dire que Godard travaille par fragments, il peut associer des choses qui ne lui appartiennent pas, comme des choses qui lui appartiennent, comme le disait Antoine tout à l'heure. Il y en a, je pense, jamais vu un film de Godard où il y a autant d'images de Godard d'avant.
Que le livre d'images.
Et que dans le livre d'images.
Peut-être qu'elles ne lui appartiennent plus. Peut-être qu'il pense qu'elles ne lui appartiennent plus.
Oui, peut-être qu'il a un rapport très distancié. Et en même temps, cette idée du fragment et du cut-up a aussi un rapport politique. C'est-à-dire que je pense que quand il utilise des fragments qui ne lui appartiennent pas, il pense finalement qu'il a le droit de le faire. Parce qu'une des obsessions de Godard, c'est quand même aussi le droit d'auteur, finalement. Et il disait, un peu en forme de boutade, à propos d'Adieu au langage, je crois qu'ils avaient prévu avec Anne-Marie Miéville qu'elle l'attaque en justice pour faire une jurisprudence Godard, parce que finalement, il ne demande pas de droit d'auteur pour ses extraits d'archives, et il se l'autorise et recrée du sens à partir de ça.
Philippe Azoré ?
J'ai l'impression que ça va encore au-delà. Il y a une dialectique qui est de plus en plus étrange chez lui, qui le rend... Effectivement, Muriel disait il est impressionnant, mais c'est même ça va au-delà... Godard fait peur, il fait peur à tout le monde, même à nous, le fan club. Pourquoi ? Parce que son système, c'est, il prend une image, elle lui appartient, ne lui appartient pas en général, elle lui appartient pas. Il l'arrache, il l'extrait, mais vraiment au sens de faire entendre un extrait. Il n'y a rien de plus beau que de faire entendre un extrait, même de films qu'on connaît bien ou de musique qu'on connaît bien. D'un coup, on écoute, on voit. Et cet extrait, immédiatement, alors qu'il lui a donné toute sa puissance d'extrait, il le confronte à quoi ? Il le confronte à son contraire, ou au pire même. Ce qui fait que dans son système de pensée, il y a toujours quelque chose qui va décevoir ou la position politique ou le confort qu'on peut avoir. Je me demandais, moi, en revoyant certains films, j'ai essayé de revoir un peu Le Petit Soldat tout à l'heure, Prenant Carmen, j'ai revu le dernier film, le livre d'images, je me demandais s'il était véritablement, enfin, si Godard était audible pour une jeune génération qui est nourrie, par exemple, au néo-féminisme ou au post-colonialisme. Notamment sur la question, par exemple, du post-colonialisme dans le livre d'images, c'est passionnant parce que la deuxième partie, c'est sur cette espèce d'Arabie heureuse. C'est avec son Dumas, ça fait un peu chier. Mais quand on écoute et moi-même qui suis un peu accro sur cette question-là, surtout sur la question arabe, où je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va faire là? Je suis un peu gêné sur les coins du film. Pourtant, à la conférence de presse à Cannes, il était là, il disait, les Arabes, il faut les laisser faire. Maintenant, son idée, c'est de nous faire voir d'abord des images qui sont des images de propagande, qui sont les images de Daesh, des images de guerre qui viennent d'actualité, mais qu'on ne sait pas voir, avec des images de films qui sont nuls, parce que soit ils sont tournés par les Américains ou par les Occidentaux, ou soit parce que c'est une production arabe lambda pas bonne. Et toute la dernière partie du livre d'images, c'est pour nous dire, s'il n'y a pas d'image aujourd'hui satisfaisante du monde arabe, c'est parce qu'on ne sait pas les filmer. Bah, démerdez-vous avec ça. Voilà. Et ça, c'est typique de la pensée godarienne, c'est pour ça qu'elle déstabilise tout le monde.
Antoine Guillot.
Et encore heureux, mais ce qui me frappe, moi, quand vous dites, est-ce que c'est pas juste un collage? Quand Aragon disait que Godard faisait du collage, c'était plutôt un compliment, vous voyez. Et pour moi, Godard, c'est l'honnête homme. C'est l'honnête homme comme il n'y en a guère plus. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire dialoguer Fuller, mais parce que le Fuller de l'époque, c'est pas le Fuller canonisé d'aujourd'hui. Ça serait faire dialoguer, je ne sais pas moi, les Avengers avec des images de Daesh et de la Croix et Dostoïevski. Parce que c'est une culture générale qui aide à penser le monde. Et en cela, je pense qu'il a compris exactement ce qui s'est passé au tournant du XXe siècle, où la haute culture autorisée s'est mélangée avec la culture populaire et a créé une toute nouvelle façon de penser. Et Godard nous aide à penser ça.
Lucille, comment ?
Mais justement, vous dites, en effet, ce sont des images d'un autre temps. Il n'y a pas les Avengers. Comment on reçoit ce film-là,
hein,
par exemple ?
Il y a Daesh.
Oui, mais il n'y a pas les Avengers. Donc, c'est-à-dire que référence... Oui.
Je pense que s'il ne met pas les Avengers, c'est que là, il se reçoit les avocats de Disney pour le coup. Et il pourrait le mettre dans le prochain.
Puis il y a le porno. Il y a toujours le porno. Il y a toujours le porno depuis une bonne vingtaine d'années.
Mais la citation, elle fait référence. Ça, pour le coup, on ne peut pas l'empêcher dans le livre d'images. De fait, ça fait beaucoup référence vers un cinéma et une actualité et une période qui est révolu.
Moi, je vois vraiment ces derniers films comme des lettres envoyées depuis un temps révolu. Ouais. Et je le reçois comme ça, avec sa voix caverneuse, avec des images aussi caverneuses. Il y a un côté Oui, presque préhistorique, mais c'est ça qui est très beau et très émouvant dans ses derniers films. C'est le côté vraiment l'être envoyé depuis l'espace, quoi.
Alors, c'est évidemment pas ce qu'il pense lui, comme il l'a dit à Olivia Gesbert. On va entendre à nouveau un extrait de cet entretien où il est question, effectivement, de politique.
Au début, les cahiers, ils s'intéressaient pas. Je m'en souviens, j'avais écrit un article qui s'appelait Pour un cinéma politique. Si j'ose dire que je ne fais qu'aujourd'hui. Mais pas du tout comme je pensais qu'il fallait le faire. Avant, je disais cinéma politique, ouais. Je veux dire un cinéma qui parle de politique. Mmh. Voilà ce que je pensais qu'il fallait faire. Mais c'était inconsciemment une idée pour... Ça se combinait à d'autres choses pour aller ailleurs, là où j'ai atterri il y a 5-6 ans seulement.
Et aujourd'hui, vous avez le sentiment de faire un cinéma politique, pas un cinéma qui parle de politique.
Même plus, comme on disait avec Gorin, de faire politiquement du cinéma. Non, c'est du cinéma. Mais la politique, c'est une phrase de « Socialisme et barbarie ». Claude Lefort qui disait « En faisant de la politique un domaine de pensée séparé, les démocraties modernes prédisposent au totalitarisme ». Et ben voilà, on est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire.
Oui, donc écoutez Jean-Luc Godard, vous y étiez, hein, Henri Leblanc-Harol avec Olivia Gesbert, ça n'est que depuis 4-5 ans qu'il fait des films vraiment politiques, Jean-Luc Godard.
Je crois qu'il ne faut pas l'écouter, finalement, c'est peut-être
c'est la fin de l'émission, faut-il prendre Godard au sérieux? Oui. On en reparle tout à l'heure.
Non, mais enfin... Je crois qu'on tous autour de cette table, on est convaincus que Godard est un très grand cinéaste politique qui ne cesse depuis ses débuts de questionner le monde contemporain et aujourd'hui le monde d'avant et peut-être à travers le monde d'avant, le monde d'après. C'est pour ça que je parlais de vagues tout à l'heure. Mmh. Parce qu'on a vraiment cette impression de dialectique entre le passé, le présent qui vont s'éclairer. Godard, je crois, est obsédé par certaines idées, notamment le cinéma de résistance qu'il a essayé d'explorer à travers le militantisme, hein, toute la phase militante amorcée par la chinoise et qu'il va prolonger avec le groupe Ziga Vertov. Et puis aussi quelque chose qui est très très prégnant chez lui, cette notion de guerre qui revient depuis peut-être Forever Mozart et même avant. À travers la guerre, c'est aussi peut-être l'idée que le cinéma n'a peut-être pas pris sa part pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pensée que avec la Seconde Guerre mondiale, le cinéma a abandonné sa part documentaire, car pour Jean-Luc Godard, finalement, le seul film qui a vraiment pris la Seconde Guerre mondiale à bras le corps est Rome, ville ouverte de Rossellini.
Lucille Comeau.
Moi, je me pose quand même en réalité la question de la cohérence, du moins. Enfin, pas de la dimension, mais de la cohérence politique de son cinéma. Quand je repense à nouveau à Masculin-Féminin, qui est décidément mon fil rouge, il y a plusieurs passages où Jean-Pierre Léo, qui est un personnage à la fois en dehors et en dedans de la lutte sociale, c'est assez intéressant à mon avis, utilise en fait la question notamment de la guerre au Vietnam et de l'impérialisme américain comme une manière de faire des blagues. Donc il tague à plusieurs moments Yankees Go Home sur une voiture d'Américains dans une rue ou alors sur une façade de cinéma, si mes souvenirs sont bons. J'y vois une forme de désinvolture aussi, une manière de à la fois se mettre dedans et toujours aussi dehors. Antoine Guillot,
allez.
Désinvolture, je dirais pas ça, je dirais une sorte d'irresponsabilité assumée et surtout de quelqu'un qui ne sait pas. Parce que malgré l'image de grand oracle dont on recueille la parole en allant à Roll, Jean-Luc Godard est tout sauf un dogmatique. C'est quelqu'un qui cherche en permanence, qui va agiter des choses qui vont provoquer, comme le disait tout à l'heure Philippe Azoury, quelque chose d'inattendu chez le et même de dérangeant.
C'est son côté chimiste, hein, il fait des précipités.
Chez le spectateur, mais aussi chez lui, je pense. Et c'est ce qui fait que sa période maoïste était quand même un immense gag, c'est qu'il a voulu se fondre dans quelque chose auquel il ne pouvait pas fondamentalement croire, parce que précisément, ce n'est pas un dogmatique. Donc son cinéma cherche en permanence, essaye des choses. Parfois c'est fulgurant, parfois ça marche pas, mais c'est pas grave parce que c'est le geste est là.
Philippe Azoury.
Je dirais que sa période, justement, enfin sa période maoïste, elle porte en elle un échec qui est une scène qui est déterminante pour comprendre aujourd'hui même le livre d'images. Il part en septembre 70 au Liban et en Jordanie pour filmer les Palestiniens sur l'invitation de l'OFP et de Yasser Arafat. Et ils sont au bord du Jourdain, ils filment des fédayines et ils décident de les filmer. Et devant, au premier plan, quelqu'un va réciter, bien dans le style de l'époque, très très raide, très très docte, un extrait du Petit Livre Rouge. Et deux ans après, c'est Elias Sambar qui le raconte dans Le Bien des Absents. Deux ans après, avenue de Messine, il réécoute l'archive, enfin ce qui est déjà une archive des fédayines. Et il fait traduire, parce qu'il parle pas l'arabe, il comprend pas l'arabe, donc il écoutait pas. Il filmait, il écoutait pas. Et il fait traduire l'arabe, et qu'est-ce qu'il entend? Il entend que les fédayines sont en train de contester la stratégie de l'OLP parce qu'ils perdent beaucoup d'hommes. Ils perdent beaucoup d'hommes. Et à chaque opération, que l'opération se répète. Et c'est une crise, c'est un moment de crise incroyable, c'est peut-être même un des éléments autobiographiques les plus importants pour comprendre le cinéma de Godard. Parce que tout le divorce entre son et image qui va accompagner toutes les années 70, avec d'abord Aton, puis la période un peu Turner, Velázquez, sauf qui peut la vie jusqu'à nouvelle vague. Mmh. Et encore aujourd'hui, à partir des histoires du cinéma, tout ce magma-là, comme ça, de son et d'image, c'est encore réparer la faute de on ne sait pas voir, on ne sait pas entendre. Il y a quelque chose d'incroyable dans le livre d'image, c'est que la première partie, elle mêle sans distinction fiction et documentaire. Presque pour nous dire que le cinéma a mieux raconté en fiction la Seconde Guerre mondiale que le documentaire, qu'il l'a raconté trop tard, c'est Nuit et brouillard. On était déjà passé. Et qu'il faut finalement des grands drames. Et qu'aujourd'hui, finalement, l'un des problèmes, Sarajevo, c'était notre musique, le cinéma savait pas le filmer. Et le documentaire, il les ramène à la télévision et personne ne les regarde. Et c'est la même chose aujourd'hui avec ce qui se passe en Irak ou ce qui passe en Syrie. Il y a, je pense, chez lui vraiment une blessure à partir du moment où, de cette séquence-là, en 70, aux abords du Jourdain, où il n'a pas su entendre, il n'a pas su décoder, il n'a pas su écouter. C'est-à-dire qu'il a fait du cinéma, comme un sourd.
Alors, 5 à 3e.
Allez, une dernière fois.
Attention.
Du fait que j'ai été un ancien critique, autrefois.
France Culture.
J'ai dit énormément de mal et j'ai été très cruel et très méchant avec beaucoup de personnes.
La dispute.
Enfin, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça m'est égal.
Arne Laporte.
Le contrepoint est une discipline de la superposition des lignes mélodiques. Les mélodies n'ont pas besoin d'être identiques, non plus que parentes. Étrangères l'une à l'autre, elles ne font pas obstacle à la composition. Mais il faut les tenir toutes les deux ensemble. Et en même temps, dans l'harmonie, les accords produisent des mélodies. Dans le contrepoint, ce sont des mélodies elles-mêmes dont, à l'inverse, résultent les accords.
En même temps, Jean-Luc Godard. On revient sur la question aussi de la citation. Je me souvenais, avec délice, des entretiens d'Horace Godard. On comprend très bien, très vite, que Jean-Luc Godard ne lit pas les livres, mais qu'il lit des bouts de livres pour en extraire des phrases, des paragraphes assez rarement, mais en tout cas des idées toujours. La citation, ça va servir, Lucille Comeau, à faire élément de montage aussi.
Oui, à faire élément de montage, et de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure, avec un effet de coordination, c'est-à-dire que tout fonctionne à peu près sur le même plan, et je crois que c'est Gilles Deleuze qui disait que son cinéma fonctionnait avec le « et » en permanence, parce que tout était sur le même plan, et ça m'a frappé en revoyant notamment Prénom Carmen, à quel point tout est sur le même plan, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas d'enchâssement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, il n'y a pas de mise en abîme dans le cinéma de Godard, tout est l'un après l'autre, et ça crée des effets de rythme qui ont un lien, je pense, avec la question du montage, qui est une question si importante. Je crois que c'est vous, Philippe Azoury, qui vouliez parler justement de la question du ralentissement, du rythme du cinéma de Godard.
Je pense justement que ça découle une fois de plus, enfin, quand je disais qu'il avait fait en 70 cette séquence du cinéma au moment du groupe Ziegfeld comme un sourd. Parce qu'un peu plus tard, comment ça va, ça doit dater de quoi, 75, 76, dans ses films les plus radicaux, du début de la période grenobloise, il fait dire « allons plus lentement, il faut décomposer ». Et à partir de là, il va travailler justement avec Aton, avec Boviala, à travailler une image qu'il peut sculpter, qu'il peut ralentir, Alors, là, il y avait la phrase magnifique, tellement romantique, du petit soldat. Là, le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Mais justement, les 24 photogrammes, on va les prendre. Autre image romantique, Godard, sur la couverture du Godard par Godard, avec la pellicule, comme Eisenstein d'ailleurs, en train de délivrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du cinéma avec la main. C'est-à-dire que le cinéma, on le tourne pas avec les yeux, faut le sculpter, faut l'amener, faut prendre les images. Moi, souvent, quand je pense à Godard, je vois Tom Cruise. Je vois Tom Cruise dans, comme ça, les Minority Report, comme ça, où il allait chercher les images, comme ça, pour essayer. Mais c'est ça, enfin, le geste godardien, et plus encore depuis les histoires du cinéma, mais c'était déjà ça à l'époque du Petit Soldat ou d'À bout de souffle, c'est d'aller chercher des images, les sculpter, les ralentir. Et sauf qu'il peut la vie là-dessus, c'est le film le plus extraordinaire, enfin, je pense.
Antoine Guillaume.
Et c'est ce qu'il dit aussi au début du livre d'images, disant, la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Et c'est ce qui a toujours été très frappant avec Godard, qu'il a même théorisé avant même de faire du cinéma. Il y a ce fameux numéro des Cahiers du cinéma où Bazin et Godard s'opposent sur la conception du montage. Bazin chantant le plan séquence et la profondeur de champ, et Godard écrivant ce texte qu'on retrouvera cité dans les histoires du cinéma, Montage, mon beau souci, où il défend le découpage classique. Et dès À bout de souffle, alors on l'a beaucoup raconté, que c'est parce qu'il avait trop de matière filmique, donc pour pas couper une séquence, il coupait l'intérieur des séquences, il invente le jump cut, mais en même temps il invente le collage qui se voit, le scotch qui passe, qui est matérialisé par un écran noir. Et ça, c'est le grand geste de modernisme de Godard, de montrer dès son premier long métrage qu'on est en train de voir un film et qu'il va faire ce montage. La disjonction image-son est là dès le départ aussi, dans l'utilisation de la musique, cette façon de mettre trois notes de Martial Solal, de les interrompre et puis de vous mettre du Bach ou du Chopin, je ne sais plus,
ou du
John Cage. Et le film se cherche se en permanence, là, quand je parlais du Godard chercheur, c'est jamais quelqu'un qui va écrire un beau scénario bien ficelé pour pouvoir le mettre en image. Tout va se faire réellement au montage, ce qui fait que la narration, très vite, il n'en aura plus rien à faire, et cet aspect collage dont vous parliez tout à l'heure, Lucille, va être la forme même des films, où la narration est soit prétexte, comme dans Pierrot le Fou, ou très vite on l'abandonne, ce qui fait que ça pourra désarçonner. Mais je me suis toujours fait la réflexion, parce qu'on voyait les films dans les années 80-90 du Godard des années 60 comme des classiques, quasiment quelque chose qui faisait l'histoire du cinéma, donc on les prenait tels quels, on les interrogeait pas. Et puis on voyait ceux qui arrivaient en même temps, et on disait, mon Dieu, en fait il faut toujours voir les films de Godard 20 ans plus tard pour pouvoir les regarder tels qu'ils sont, et non pas quel est ce nouvel objet qui me désarçonne parce qu'il ne me raconte pas une histoire.
C'est très très juste que quand on revoit les films aujourd'hui des années 90, ils paraissent bien plus limpides. Ceux des années 80 paraissent complètement trop lucides, alors que c'était à l'époque un sommet d'obscurité.
Noël Jodet.
Oui, Godard dit quelque chose de très beau sur Nouvelle Vague. Il dit « L'histoire tenait sur 2 minutes, mais le film devait durer 1h30 ». Et je pense qu'à partir du moment où l'histoire est racontée, c'est là que Godard commence, c'est-à-dire après ces 2 minutes. Et pour moi, c'est ça, toute à la fois l'opacité et le génie de Godard, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a raconté une histoire, sachant que l'histoire s'atomise complètement au contact du tournage, des acteurs, de la réalité qui est là, du montage. Donc clairement, c'est quelqu'un qui a détruit le scénario, et pour le plus grand bien du cinéma français.
Pour autant, il a quand même toute une longue partie de son travail qui a inclus des comédiennes et des comédiens, et pas les moindres. Il a donné, c'est vrai que quand on voit la liste des comédiennes et comédiens qu'il a filmé, ça donne un peu le vertige. Donc de Belmondo à Depardieu, de Piccoli à Delon, de Bardot à Carina, du Père à Baye, de Dutronc à Léo, de Hallyday à Chantal Goya. Donc on va essayer de s'interroger sur le rapport de Godard à ses interprètes. Peut-être pour commencer, Henri Leblanc.
Ah oui, non, ce qui est assez fou avec Jean-Luc Godard, c'est que donc il a plus de 50 ans de cinéma derrière lui, et aujourd'hui il tourne quasiment sans acteur. Enfin, il va dire lui qu'ils étaient déjà là et que du coup il utilise aussi des acteurs. Je pense qu'il faut se rappeler quand même que dans Adieu au langage, le personnage principal, en gros, c'est son chien. Donc
Roxy Mieville, il a un nom de famille.
Ce cinéaste est à la fois démiurge avec Belmondo, Anna Karina. Ensuite, il joue avec les icônes de Brigitte Bardot jusqu'à tuer Alain Delon dans Nouvelle Vague et le ressusciter. Et aussi, je crois que c'est quelque chose de très important chez lui, de mettre à l'écran des gens qu'il admire. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je crois que finalement, Godard, c'est aussi un grand admirateur.
Vous allez pouvoir parler du mépris.
Et qui sait dire.
Je sens. Fritz Lang.
Oui, voilà.
Le mépris, c'est quand même pas rien.
Voilà, qui joue son propre rôle, Fritz Lang, ou même de faire intervenir Sam Fuller dans Pierrot le Fou, ou même finalement de citer si bien Nicolas Ray à longueur d'extraits de films, enfin de films de found footage qu'il fait dernièrement, et de voir que finalement, le cinéma de Godard est aussi une manière d'éclairer peut-être le cinéma qu'il aime ou qu'il a aimé ou qu'on va nous aimer. Je crois que c'est un grand passeur aussi.
Bon, il y a les acteurs, mais il y a aussi les actrices. Marielle Jodet.
Oui, il y en a beaucoup. Alors, je vous ai préparé une typologie.
Ah, attention. Est-ce qu'il faut prendre des notes?
Oui, parce que c'est le bac Godard, de cette
attention.
Émission. Non, mais disons que je me suis dit, il y a quand même ce truc derrière Godard, de cette opposition un peu cliché de Pygmalion-Muse. Qu'est-ce que ça recouvre pour Godard et même pour les cinéastes de la Nouvelle Vague? Pour moi, il y a deux choses. D'abord, c'est la question qui s'est posée à peu près pour tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, surtout Chabrol et Truffaut, c'est comment faire du cinéma avec ceux qu'on aime, avec les femmes qu'on aime. Et donc, ça a donné pour Godard Anna Karenina dans un premier temps et Anne Wiazemski. Mais en tout cas, à la fois, la question du cinéma et celle de l'amour se résolvent dans les mêmes termes, c'est-à-dire faire des films. Mmh. Et ensuite, ça s'est prolongé avec Anne-Marie Méville, sauf que voilà, elle passe derrière la caméra, elle travaille avec lui, et il me semble que, peut-être à quelques occasions, à quelques, comment dire, exceptions près, elle n'est pas devant la caméra. Il y a aussi la phase amour courtois, c'est-à-dire qu'on va pas consommer la relation, mais on va créer on va sublimer cette sorte de libido, de désir qui ne peut pas s'assouvir dans un film, et c'est ce qu'a donné, voilà, la collaboration de Myriam Roussel avec Godard. Donc ça, c'est pour les femmes aimées. Et le deuxième...
Ouais, y a Chantal Goya qui voulait des habillés à tout prix. Hein.
Voilà, et donc les stars, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un rapport presque de donnant-donnant. C'est-à-dire que pour Godard, ça va lui permettre de faire en sorte que ses films soient vus. Et pour les stars, ça va être un moyen d'avoir un film de Godard dans leur filmographie. Mmh. Et ça, c'est très important. Il y a une sorte d'échange comme ça, de don contre don qui se met en place. C'est aussi pour Godard... En fait, une manière de citation, hein, quand il utilise Delon, quand il utilise Brigitte Bardot, c'est de la citation, c'est du collage. C'est une manière d'intégrer dans ses propres films la mémoire des filmographies de Brigitte Bardot, de Delon, d'Isabelle Huppert, de Johnny Hallyday. Et c'est une manière aussi de jouer avec cette mémoire, c'est le côté Picasso. On reprend les modèles et on les réinterprète à sa manière, après avoir volé les stars à d'autres cinéastes.
Lucille Gomeau.
Ça m'a frappé en revoyant un certain nombre de films à nouveau vraiment très très éloignés dans le temps, à quel point toutes les femmes sont potentiellement, mais à différents niveaux, et c'est intéressant, des prostituées. Et bon, pas seulement dans Vivre sa vie, c'est-à-dire que toutes les héroïnes sont des prostituées en devenir ou en retour. Enfin, c'est parfois assez assez fin, mais en tout cas, ça se comprend assez vite. Et je me demandais ce que ça pouvait raconter aussi de son rapport aux actrices, dans ce que vous disiez justement, le don contre don. Ça peut être ça aussi, comme type de rapport.
Je pense que ça renvoie un peu à la méfiance de Godard à l'égard du cinéma. C'est-à-dire que pour lui, il y a quelque chose de sale derrière l'idée d'acteur. C'est pour ça que voilà, Isabelle Huppert dans Sauf qui peut la vie, je une prostituée. Pour lui, même, c'est la même étymologie, acteur et prostituée, c'est exposé, aller au
très très à l'ancienne, bah,
les
comédienne,
acteurs, c'est ça, voilà, c'était ça. Il y a quelque chose, on retourne à l'étymologie du mot, et je crois qu'Antoine de Bec invoque l'idée que dans sa biographie sur Godard, que Godard était fasciné par la prostitution, mais je pense qu'il y a un truc pour lui, entre actrice, acteur, et il faut vraiment intégrer les acteurs, hein. Pour lui, Alain Delon, comme Brigitte Bardot, c'est exactement la même chose, c'est des corps, c'est des poupées, il les filme un peu comme tel, et derrière, peut-être, il y a l'idée de prostitution, mais dans un terme, enfin dans un sens large.
Alors parfois, Jean-Luc Godard se prostitue, lui aussi. Sauf s'ils sont parfois.
17 sur 1, 6e. Président Mao a dit il faut avoir les chiffres en tête. Il a bien oublié hein, celui-là. Pourtant, c'est un grand cuisinier.
Ah oui.
Bah oui, il a donné à manger à toute la Chine.
Bon, il faut que je vous parle de notre affaire.
Mais Carmen, elle est pas là.
Voilà. Elle ne viendra pas. Voilà. Elle ne travaille pas très bien en ce moment.
Ouais, elle est amoureuse.
Exactement.
Amoureuse.
Mais je sais pas qui.
Amoureuse.
Vous voulez des brioches?
Oui, bien.
S'il vous plaît, des brioches pour mon ami.
Voilà. Quelle bande d'ordures, hein, ces jeunes. Ils ont pas inventé la cigarette, pas le blue jean, rien.
Ils ont inventé le chômage.
Pas vraiment. En tout cas, ils l'ont pas cherché.
Il faut
chercher, hein. Van Gogh a cherché un peu de jaune. Quand le soleil a disparu, il faut chercher, mon vieux. Il faut chercher.
Oui.
Il faut chercher.
Alors, le personnage Jean-Luc Godard, Antoine Guillot.
Bah là, c'est l'oncle Jeannot, dans son asile psychiatrique de prénom Carmen. Mais il ressemble, il a un cousin dans Soigne ta droite, où il joue l'idiot, qu'on appelle aussi le prince, qui est justement une ex grand cinéaste très reconnu, complètement ringardisé au moment du film, et qui doit faire du cinéma alimentaire, et donc se prostituer, parce que cette figure de la prostitution, c'est aussi le rapport de Godard et tout son puritanisme protestant derrière, devant aller séduire pour avoir de l'argent pour faire ses films, et évidemment détourner immédiatement la commande après. Moi, j'aime beaucoup le personnage Godard parce que c'est un personnage assez comique en fait, assez qui est une sorte de mélange entre Groucho Marx d'un côté, le côté facétieux, son œil comme ça un peu, voilà, et le cigare, et puis son côté W.C. Fields, le côté taciturne, misanthrope, retranché, et il y a cette créature qui va presque le dépasser comme Gainsbourg avait dépassé Gainsbourg dans les années 80, c'est JLG. C'est-à-dire c'est celui qui se met en scène, le fameux JLG par JLG, mais surtout qui va devenir une créature médiatique à un moment. Il y a un moment dans les années 80 où Godard sera très souvent invité à la télévision à faire son numéro, où il va faire des conférences de Cannes, des conférences de presse à Cannes. Je condense, là je fais du Godard, qui vont être des spectacles à eux tout seuls, où à la fois il sait que sa parole va être recueillie, comme je disais, un oracle tout à l'heure par de fervents admirateurs qu'il méprise souverainement. Parce que Godard déteste les gens qu'il aime et ne s'entend et ne peut. C'est pour ça qu'il disait qu'il aime les disputes, c'est qu'il n'arrive à discuter qu'avec des gens qui s'opposent à lui. Mais il va en faire une sorte de bouffon médiatique. Il en aura conscience très vite. Et sa dernière conférence de presse par FaceTime était une sorte de clin d'œil à vous attendez mon vieux numéro de clown sur le retour. Et ben je ne vous la donnerai pas ou je vous la donnerai comme je voudrais.
Voilà. Lucille Comeau. Godard, acteur aussi.
En tout cas, c'est vraiment l'irruption d'un corps burlesque. Ce qui m'a frappé, c'est que du coup, à partir du moment où j'ai revu...
Mais il y a le film dans Cléo de 5 à 7, le moment où il fait
les amants du pont McDonald's.
Les amants du pont McDonald's.
Dans le film d'Agnès Varda.
Il est extraordinaire. Quoi. Ouais. Ou le mélodrame obsessionnel du signe du lion de Romère. Et je vous laisse là.
Non, mais c'est drôle parce que quand on revoit Prénom Carmen et que du coup, on a en tête ce corps-là, le corps de Godard dans Prénom Carmen, on revoit justement les personnages masculins et la manière dont il utilise les corps masculins aussi de manière extrêmement burlesque, qu'elle est ridiculisée depuis le début, c'est assez frappant.
19h53, Henri Leblanc demande la parole. Henri Leblanc a la parole.
Le corps Godard a aussi un intérêt, notamment dans King Lear, où il incarne aussi encore une fois un metteur en scène avec cette image incroyable de une sorte de boîte où il y a de la lumière qui sort. Et finalement, quoi qu'il arrive, Godard reste celui qui donne la lumière quelque part. Il y a un truc un peu de démiurge. Quoi. Voilà.
De Dieu, là, quasiment. Voilà. Oui, mais justement, c'est la dernière question, je l'avais annoncé. Faut-il prendre Godard au sérieux? C'est un tour de table sur cette dernière question. Est-ce qu'il faut aussi comprendre, peut-on ou faut-il comprendre les films de Jean-Luc Godard pour les futures téléspectatrices et téléspectateurs d'Arte vendredi soir? Ils vont pouvoir se poser plein de questions devant le livre d'images. Antoine Guillot, est-ce qu'il faut tout comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre?
Se poser des questions, c'est bien. Tout comprendre,
on est pour,
je suis pas sûr quand j'écoute une symphonie, quand je regarde un tableau abstrait ou quand je lis un poème que je comprends tout, mais je ressens énormément de choses et Godard m'a toujours frappé pour ça. Depuis que je parlais des films que je découvrais comme étant mes contemporains, j'ai l'impression de films qui s'adressent directement à mon inconscient. Il est impossible de tout saisir puisqu'il y a des images qui se superposent, des sons qui se superposent, deux discours qui se tiennent en même temps et malgré tout, on en sort dans un état, on n'est pas dans le même état que dans lequel on était entré quand on sort de ce film. Il se passe quelque chose, donc il faut se mettre dans une sorte d'état comme ça, entre veille et sommeil. Je pense qu'il faut avant tout ressentir les films de Godard, il vous en restera toujours quelque chose.
Entre veille et sommeil, Henri Leblanc, il n'a pas eu beaucoup dormir depuis 15 jours, entre le voyage à Rolles, la préparation de l'émission de la Grande Table.
Non, moi je pense qu'en fait, je suis un peu comme Antoine, je pense qu'un film de Jean-Luc Godard, c'est un peu comme une soirée un peu arrosée, en fait. On met du temps à s'en remettre, ça sédimente, on y revient, on y repense, ça s'éclaire petit à petit, et finalement... Est-ce que dans une époque où on explique tout dans l'instant, sur les réseaux sociaux, où on s'exprime sur tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout comprendre? Moi, je crois que c'est finalement assez salvateur de se dire, remettons-nous à notre place, peut-être qu'il faut faire un peu preuve d'humilité, et que le temps de comprendre toutes les citations, les jeux d'enchevêtrement, d'associations d'idées qui sont parfois pas faits du tout pour être compris, puisque finalement Godard travaille au début un scénario, c'est son étagère, la fameuse étagère verte, où il va poser physiquement les livres les uns à côté des autres, et ça lui vient sûrement juste par une idée, et peut-être qu'il rigole lui-même de dire, ah ben finalement les gens vont essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc moi je crois qu'il ne faut pas comprendre.
Ouais. David Lynch dit la même chose, hein, dans un autre genre. Muriel Jodet.
Moi je pense que Jean-Luc Godard et plein d'artistes comme ça qui ont l'air très intimidants souffrent d'une idée qui me paraît très démagogique selon laquelle les œuvres doivent venir à nous. Alors que non, je pense que les œuvres qui nous ont le plus marqué en littérature, en musique, en cinéma, c'est des œuvres qui ont demandé un effort. Et cet effort produit au bout d'un moment quelque chose de spontané, produit une sorte d'aisance. Voilà, on finit par s'y habituer, par devenir ami avec ces œuvres. Mais moi, je ne crois pas du tout au fait qu'il faut être qu'en débarquant un culte devant Godard. Alors ça peut marcher devant À bout de souffle, ça marche totalement. Devant d'autres films, c'est plus compliqué. Et je pense que son œuvre est pleine de clarté, d'opacité, et que l'opacité invite finalement parfois à, comme disait Antoine, nous invite à régresser vers un état parfois plus presque enfantin, beaucoup plus primitif, notamment les dernières œuvres. Il y a l'idée que faut arrêter de comprendre, mais je pense aussi qu'une certaine culture peut aider à comprendre Jean-Luc Godard.
Philippe Azoré, très rapidement.
Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Moi, ça fait 30 ans que que je vois ces films, donc j'espère que je le prends un peu au sérieux, sinon j'ai perdu du temps. J'écoutais Henri qui disait une soirée bien arrosée, c'est presque un acide. Enfin, on a l'impression qu'il y a des conjonctions, enfin, il y a des connexions dans le cerveau qui d'un coup s'opèrent. J'ai surtout l'impression qu'on est trois devant un film de Godard. Il y a Godard lui-même, il y a le film, c'est pas la même chose. Donc Godard, il y a ce que Godard veut et ce que le film peut, c'est pas toujours la même chose. Des fois, Godard est très très mécontent de ses films, il a peut-être raison. Et puis il y a nous, et là-dessus, Antoine aussi a raison. On a l'impression que le film s'adresse uniquement à nous. On a souvent l'impression d'être les seuls à avoir la clé d'un Godard. Donc tout comprendre, non, parce que moi je comprends pas tout à moi-même. Alors si je suis seul devant un film de Godard à côté de lui, devant son film, bah ça fait voilà, on est deux, on peut commencer à dialoguer ou s'engueuler ou se disputer.
On va s'arrêter là pour cette émission consacrée à Jean-Luc Godard, émission préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Jacques Hubert, Alexandre Fougeron. On se retrouvera demain pour une dispute plus normale, elle consacrée à la musique.